Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est l'un des porte-parole du Palika. Ce n'est pas Judicael Selefen, comme nous vous l'avions annoncé, mais c'est Charles Wachétine. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas intervenu dans les médias. Le Palika qui réunissait son 50e congrès ce week-end, un parti qui a été fondé en 1976. Ça fait de lui l'un des vieux partis calédoniens aujourd'hui. Est-ce que l'histoire est encore présente chez les militants, chez vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous racontez, que vous prenez en compte l'histoire de ce parti?
Oui, on l'a encore vu à notre congrès de Bouaï, où on voit bien que les militants qui sont là sont plutôt des jeunes, nouvelle génération, qui arrivent aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux aussi en responsabilité. Donc là, moi pour nous, il s'agissait donc de voir comment on continue à entretenir l'histoire du parti qui a été fondé, et vous l'avez rappelé, en 76, pour voir comment on fait aboutir le combat pour lequel on a été créé.
Alors il y a quelque chose d'un peu curieux avec le Palika, et vous me direz si je me trompe, mais c'est l'impression générale qu'on a depuis quelques années. Avant le Palika, c'était les Durs, c'était un parti marxiste qui semblait beaucoup plus radical que l'Union calédonienne. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on a l'impression que le Palika, on dit indépendantiste modéré. Est-ce que c'est une étiquette qui vous convient et est-ce que vous assumez ce changement d'attitude, cette évolution du parti?
Non, je crois que le mot d'ordre, il reste. Simplement, le portage est différent dans sa modalité. On sait que depuis sa création, il fallait que la voix du Palika se fasse entendre. C'était un petit noyau qui avait privilégié le travail de conscientisation sur le terrain. Il fallait sillonner les tribus, il fallait être présent, y compris à être présent sur la place publique pour revendiquer le combat pour la dignité du peuple kanak. Et le cheminement, et notamment aussi qui est lié au contexte et lié au rapport, notamment avec l'État français, et aussi vis-à-vis de son implantation sur le terrain, a fait que dans les années 80, puisqu'on a fait le choix de discuter, d'utiliser la voie du dialogue, la voie de la concertation. Nous avons estimé donc changement de stratégie, mais pas changement de cap sur le plan politique. Parce que pour nous, la question de l'indépendance, la question de l'accession du pays à la pleine souveraineté reste pour nous l'objectif final. Et on considère que pour pouvoir se sortir du système, notamment qui nous lie à l'État français, ben, ça passe par notre capacité à discuter. Et on a vu, quand on a d'une certaine manière changé notre manière de faire, on a concilié les deux. À la fois, on est présent sur le terrain, ça on l'a vu aussi pendant les événements de 84 et la suite, mais le travail institutionnel, parce qu'on a aussi privilégié le travail institutionnel pour amener des politiques publiques au service des populations, parce que c'est d'abord ça, le combat du Palika, combat pour la dignité et surtout un combat pour les droits du peuple colonisé qu'on a fini par concéder aussi aux autres, compte tenu de l'histoire de la colonisation. Et je rappelle simplement que on est passé en 95, après avoir intégré le FLNKS pour créer un rapport de force en 84, en 95, nous avons créé l'Union nationale pour l'indépendance, en partant du principe qu'il y a des convergences d'intérêts entre le peuple kanak et ceux qui étaient appelés par notamment Nainville-les-Roches comme étant les victimes de l'histoire. Et puis, au colonialisme tel qu'il s'est imposé, a été supplanté par le capitalisme, donc avec également les mêmes modes. Opératoire.
Le Palika reste un parti marxiste. Vous diriez toujours que vous êtes un parti marxiste.
Ça reste ça reste les moyens, on va dire, idéologiques qui nous permettent de regarder la situation, d'apprécier la situation du moment, pour voir comment on comprend hein, les contradictions là et les convergences ou divergences d'intérêts, ce qui nous permet, parce que je le redis, hein, nous on veut une société juste, équitable et surtout que notre peuple est avec les autres. Hein, parce que c'est le sens de notre combat politique, travailler pour asseoir une société juste et équitable. Donc ça, c'est le projet reste. On y travaille à la fois au niveau du terrain et aussi ben, sur le plan des institutions. Parce qu'aujourd'hui, hein, puisqu'on parle de l'évolution du Palika, on pense qu'aujourd'hui, le Palika est devenu d'une certaine manière un parti de gouvernement, puisqu'on est présent, nous, à la fois dans les communes, on est présent dans les institutions, parce qu'on a considéré que c'est aussi un levier qui nous permet...
Et vous dirigez une province.
On dirige une province, on est présent des élus dans les trois provinces, et des élus dans les conseils municipaux. Donc c'est important que, si on veut parler hein, donc de la dignité, ben, ça passe aussi par notre capacité à travailler pour que les gens, et ça aujourd'hui ce sont les voies institutionnelles qui nous permettent de faire en sorte que le citoyen, quel qu'il soit, Kanak ou pas Kanak, ben, qu'il ait accès que les collectivités répondent à ses besoins élémentaires, ne serait-ce que pour boire, ne serait-ce que pour manger, ne serait-ce que...
Et vous avez c'est aussi l'un de vos membres qui a pu présider le gouvernement, la personne de Louis Mapou, donc vous avez pris votre place dans les institutions. Changement de stratégie à nouveau aussi depuis 2024, vous avez pris vos distances avec le FLNKS, vous êtes mis en retrait du FLNKS. Le président du FLNKS vous avait demandé de répondre, et vous aviez jusqu'au 2 novembre pour dire si vous réintégriez ou non le FLNKS. Lors de ce 50e congrès, vous avez décidé d'en sortir.
Ce n'est certainement pas suite à l'injonction hein, donc du nouveau président du FLNKS. Nouveau.
C'est une confirmation.
On était déjà en dehors du FLNKS dès l'année dernière. Nous, on considère qu'il faut donner de la clarté, hein, donc non seulement à nos militants, mais aussi à ceux qui, aujourd'hui, avec qui on discute. Hein, donc, parce que quand on considère qu'on ne partage plus hein, la stratégie hein, qui est aujourd'hui promue par le FLNKS nouveau, on a une stratégie, je parle notamment hein, de notre capacité à faire valoir dans le cadre du dialogue avec la puissante tutelle, qui reste pour nous la voie qui nous permette hein, d'aller au bout d'eux. Quand on fait le bilan, hein, notamment de la mise en œuvre, parce qu'on était impliqués, nous, depuis les accords de Matignon-Oudinot, l'accord de Nouméa avec tout ce qu'on a fait pour le compte du pays en termes de développement, en termes de... Ben, on voit bien que par ce biais-là, on arrive à répondre notamment aux besoins immédiats des gens. Alors, effectivement, se pose au bout du compte, parce que c'est aussi le temps du bilan, le modèle économique là, donc on voit bien qu'il faut le réformer. Mais nous, ce qui importe, et c'est la contradiction principale, c'est d'abord dans les relations que nous, on a avec l'État. Et c'est justement les discussions sur l'avenir institutionnel, c'est celle-là hein, qu'on doit faire aboutir. Et on considère que l'accord de Bougival s'inscrit dans le prolongement de ces accords. Donc, des moyens aujourd'hui, donc des dispositions, donc un certain nombre de dispositions sont ouvertes, mais charge à nous, en plus... avec l'ensemble hein, des Calédoniens, tel qu'est prononcé par l'accord, hein, de se prendre en main.
Quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de ce qu'on appelle le nouveau FLNKS, qui se fait donc sans vous, sans l'UPM, autour de l'Union Calédonienne et de la CCAT, avec l'adjonction d'un certain nombre de petits partis. Le nouveau FLNKS qui refuse Bougival, qui ne veut parler qu'en bilatéral avec l'État, qui affirme qu'il continue à être le seul représentant du peuple kanak. Comment est-ce que vous analysez sa position et qu'est-ce qui l'a amené, à votre avis, dans cette attitude que certains qualifient d'impasse ?
Alors, nous, on a tendance d'abord à parler pour nous. On connaît notre engagement à une époque, hein, ça c'est de l'histoire, mais c'est aussi important que les générations qui arrivent sachent hein, comment, dans le cadre du jeu de rapport de force, on a pu travailler avec les autres mouvements indépendantistes ou les autres sensibilités, le front indépendantiste. On est resté une année et demie à l'intérieur du front, on est sorti, une scission à l'intérieur du Palika qui a donné naissance au LKS, création de l'LKS, on y a adhéré parce qu'on estimait que c'était la force politique qui nous permettait de faire aboutir notre projet d'indépendance. Et maintenant, on fait le constat, et on l'a fait à notre congrès de Bouraille, ça fait 41 ans. 41 ans qu'on est dans le FLNKS, avec les résultats aussi qu'on a engrangés, que le FLNKS a engrangés. Pour nous, il faut qu'on préserve les acquis aussi de notre engagement au sein du Fonds. Ce qui se passe là, on nous met à mal aussi à ces acquis. Dans 41 ans, sur 50 ans d'existence, c'est pas rien. Et donc on considère que la sortie du FLNKS, pour nous, s'impose à nous. Parce que la stratégie aujourd'hui défendue, notamment par le FLNKS nouveau, ne correspond plus à celle qu'on portait quand on était au sein du FLNKS créé en 84. Et je voudrais rappeler sur le sujet qu'à l'époque, c'était 7 groupes de pression politique qui composaient le front. Certains sont sortis, puis voilà, donc ils sont revenus. Qui aujourd'hui milite au sein du... qui a intégré le FLNKS nouveau, on n'a fait aucun commentaire quand chacun est sorti, parce que c'est une coalition. Chacun est libre d'assumer ce qu'il porte. Nous, on l'a fait. Quand on voit aujourd'hui le FLNKS nouveau qui revendique la paternité d'aller parler au nom du peuple kakalaka à l'extérieur, pour nous, c'est plutôt un écart de langage. On parle de l'identité, on revendique l'identité kanak. Je pense que personne n'a le monopole de l'identité kanak. Personne n'a le monopole non plus de la représentation du mouvement indépendantiste dans les institutions. Simplement, les coalitions qui ont pu être faites là, c'est pour s'assigner des objectifs politiques que l'on doit traduire dans la réalité, soit au niveau institutionnel ou, puisqu'il s'agit là donc des discussions avec l'État, qu'on ait des discours cohérents vis-à-vis de là aujourd'hui, on a du mal à savoir. Parce que chacun, on a fini par faire du FLNKS une finalité du combat politique. Non, moi, je considère que avant tout, les outils qu'on met en place, c'est pour qu'on s'organise, pour porter un objectif politique et puis pour aller dans le sens de la société qu'on veut.
Mais alors, le FLNKS, oui, c'est une coalition, effectivement. C'est une image, au-delà de ça même. Le FLNKS, il est signataire, vous le rappelez, de Matignon, de Nouméa. Est-ce qu'il existe encore, ce FLNKS, ou est-ce qu'ils ont juste pris le titre, l'étiquette, mais qu'aujourd'hui, on est obligé de constater que le FLNKS n'existe plus? Comment vous voyez les choses?
Dans tous les cas, le FLNKS, de ce qu'on connaissait, nous, quand on y était. Donc on a vécu avec FLNKS, avec ses contradictions, on a su, surmonter ces contradictions, parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y avait aussi cette capacité de dialogue, de discours, et que les objectifs qu'on s'assigne de l'intérieur, et notamment sur le plan du portage politique, sont clairs. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de débat. Parce que c'est ça aussi la force du FLNKS, cette capacité à discuter, cette capacité à échanger pour lever les incompréhensions que l'on peut en voir à l'intérieur. Moi, depuis un certain temps, et notamment après notre départ, parce que jusqu'en 2021, il y a eu le congrès du FLNKS, le dernier congrès auquel on a participé à Lanzvata. On s'était donné un certain nombre de missions, notamment vis-à-vis de la discussion avec l'État sur la suite à donner au processus de l'accord de Nouméa. Depuis cette démarche-là qu'on avait privilégiée, la concertation aujourd'hui, n'existe plus. Donc, pour nous, il faut qu'on prenne notre liberté. Et dans le même temps, notre liberté, c'est pas que pour nous. Enfin, nous, on a toujours considéré qu'on ne se bat pas pour le Palika. Le Palika est une organisation qu'on a mis en place pour porter un combat politique. On a intégré le fonds parce qu'on a estimé que le fonds, c'est une histoire de rapport de force, pouvait être aussi une force politique pour faire valoir.
Ah, justement, est-ce que ça affaiblit pas le camp indépendantiste aujourd'hui d'être divisé aussi fortement? Il y a toujours eu des divisions, tout le monde le sait. Oui. C'est une coalition, pas un parti unique, mais quand même, quand il y avait l'UC, le Palika, l'UPM, des partis historiques et de poids, est-ce que maintenant que vous êtes divisé entre vous, ça ne va pas affaiblir votre revendication, le camp indépendantiste dans son ensemble?
Non, on est des organisations propres, avec une structuration qui est propre, avec une idéologie qui est propre. Simplement, les congrès, comme les assemblées générales, comme le bureau politique, sont autant d'instances qui nous permettaient d'échanger sur les moyens, la mise en œuvre pour accéder aux objectifs qu'on s'est assignés. Là, mais je ne veux pas parler pour les autres. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on vit des slogans. Et pour nous, la décision de sortir du front, pour nous, elle a une portée historique. Et cette décision, je dis bien 41 ans, et c'est imposé à nous. Parce qu'il faut donner la clarté aux jeunes qui arrivent, qui n'ont pas connu tous ces événements qui sont arrivés après et qui, aujourd'hui, parce qu'on utilise, on instrumentalise le FLNKS sans forcément qu'on explique parler de notre histoire. On arrive avec des slogans et on utilise on instrumentalise les jeunes pour des causes qu'eux-mêmes ont du mal, en dehors des slogans, qu'ils ont du mal à configurer. Je crois qu'il y a un travail pédagogique qui doit être fait vis-à-vis de notre... Et nous, au moins pour nos jeunes, il faut de la clarté, parce qu'au sein du front tel qu'il est aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre aussi quel est le projet du Palika.
Il y a l'absence de clarté, l'impossibilité d'organiser le débat entre vous comme c'était le cas auparavant. Il y a quand même aussi les événements de mai 2024. Ces émeutes, ça n'a pas été aussi quand même l'élément déclencheur chez les gens du Palika qui n'ont pas soutenu les débordements de la CCAT?
Ben, certainement, nous on a eu dit. Peut-être pas, on n'a pas été aussi réactif que l'on aurait dû le dire. Mais on ne construit pas un pays par le biais de la destruction. C'est quand même aller brûler les écoles. C'est quand même des bâtiments symboliques. Pour nous, ça c'est notre génération, où à l'époque on ne savait pas comment aller à l'école. On n'avait pas l'école publique qui était plus ou moins interdite au Kanak, c'est les enseignements privés. Donnait de l'instruction aux jeunes Kanaks. Et nos vieux avaient pensé qu'à l'époque, l'accès à l'école, l'accès au savoir, nous permettait aussi de comprendre notre propre situation au sein de la configuration sociale que nous, en tant que militants, on a estimé comme étant une société de justice, parce que coloniale, on n'a pas la maîtrise de tout ça. Et quand on voit ce qui s'est passé, on brûle les écoles, on brûle les églises. Alors les églises, évidemment, ça c'est la colonisation qui a amené. Mais avec le peuple kanak, du fait précisément qu'ils sont scolarisés dans... Il y a une forme de syncrétisme qui s'est opérée entre les valeurs défendues par la religion et pour certaines, pour le peuple kanak, forme de syncrétisme-là. Comment ce patrimoine, il peut être perpétué dans le temps? Les valeurs qu'on a apprises aussi à l'école, parce que nous, on plaide au sein du Palika, donc la Constitution qui parle des droits de l'homme et tout ça, nous, on s'inscrit totalement là-dedans. Parce que c'est précisément parler de droits de l'homme, c'est d'une certaine manière dénigrer ce qui s'est fait par le biais de la colonisation, où c'est le profit qu'on privilégie au détriment de ce qu'est la vie humaine.
Mais pour les entreprises aussi, même pour un parti marxiste, on n'estime pas que c'est bien de brûler des entreprises.
Parce que la conséquence, elle est quand même la suivante. Et celle-là, elle est... qu'est-ce qui se passe? Pas de travail, pas de cotisation. Et aujourd'hui, on a tous les régimes sociaux hein, qui sont rouges, comment on fait ? Hein, donc c'est aussi tout ça. Donc ça, il y a un effet, hein, donc induit, hein, de ce qui se passe. Mais peut-être que on n'a pas mesuré. On n'a pas mesuré les conséquences de tout ça. Là. C'est 10 000 emplois, eh ben c'est pas rien. Et derrière les 10 000 emplois, c'est aussi des familles. Donc, est-ce qu'on a potentiel, il y a eu des événements, mais on n'a pas porté atteinte aux biens publics, les biens qui servent aux citoyens. Ça, c'est quand même... c'est, parler de d'avenir, c'est aussi parler de la manière dont on préserve tous ces outils qu'on a mis en place pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt collectif. Donc, nous, on, ça reste notre ligne de conduite. Alors, certains donc, ont estimé que sur le plan symbolique, mais okay, le combat pour les symboles, c'est bien. Il faut, comme des temps, hein, aujourd'hui, mémorial dédié à c'est aussi bien. Mais attention, il ne faut pas que ces temps de mémoire mémorielle soient... porté comme étant une opposition à l'autre. Hein, parce que c'est quand même, et c'est le sens de notre combat politique. La construction, d'abord de la citoyenneté, parce que c'est l'accord qui ouvre ça, mais c'est celle-là, faire peuple. C'est l'enjeu. L'enjeu, donc, aussi qui est, qui sous-tend Bougival. Comment on fait, hein, pour traiter les questions de quotidien des gens? C'est la citoyenneté, hein, pour pouvoir peut-être prétendre demain à la nationalité, telle qu'elle est proposée par Bougival.
Alors justement, donc le 50e décision historique de ce 50e congrès, c'est donc le retrait du FLNKS, c'est aussi le soutien à Bougival réaffirmé de la part du Palika. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet accord ? Parce que là aussi, on a entendu l'UC FLNKS parler de l'heure de souveraineté, d'affirmer que les fondamentaux du combat du peuple kanak n'apparaissent pas dans l'accord de Bougival. Vous ne partagez pas du tout cette analyse, mais qu'est-ce qui vous plaît dans cet accord ? En quoi vous estimez que c'est une avancée ?
On le redit. En plus, on a été confronté ces deux dernières années au fait que dans la gestion, hein, du dossier calédonien, je pense que c'était une maladresse, notamment de la part de l'État, hein, de vouloir demander à ce qu'il y ait des élections... Alors même que l'histoire du corps électoral n'était pas réglée. Donc, on a utilisé le voie, hein, donc, ça, on est la loi organique, hein, donc on demande le report. Mais nous, pour l'accord de Nouméa, la procédure a été différente. On a d'abord parlé d'accord, on a décliné tous les moyens qui nous permettent de mise en œuvre de cet accord au travers d'une loi organique, et y compris à traiter la question du corps électoral. Là, on a sorti l'histoire du corps électoral, qui est un sujet qui est clivant. Et là, on a voulu le traiter en dehors d'un accord politique. Alors que l'accord politique, l'accord de Nouméa, avait une fin. C'est 20 ans. Consultation, c'est ça l'accord de Nouméa. Donc il nous fallait trouver un autre accord. C'est une condition qui nous permet, nous, de voir comment on traite de manière un peu... peut-être aussi aisément la question du corps électoral. Et là, ben, on a fait les choses un petit peu à l'envers. Et ce qui fait que, ben, depuis 2021, on ne sait pas comment on s'y prend. Alors on essaye, par le biais là, de voir comment on fait. Mais la question, je voudrais le dire, hein, au moins pour ce qui nous concerne, en termes de rapport de force, on n'a pas à avoir peur, hein, d'ouvrir. C'est limité, vous avez vu, hein, dans les discussions de Bougival, c'est ouvrir aux natifs. Hein, sur les 12 000 natifs, il y a 5 000 Kanaks. Hein, sur ceux qui bénéficieraient de 10 ans de résidence, c'est 5 000. Mais quand on regarde les statistiques ici, peuple Kanak, 40% quand même. Et en plus, quand on adosse à cette donnée démographique aux résultats engrangés par le mouvement indépendantiste pour la consultation de 2018, pour la consultation de 2020 et les résultats notamment aux législatives. On voit bien que cette sensibilité indépendantiste, elle a bien dépassé la sphère du mouvement et la sphère kanak. C'est-à-dire que, bah, précisément, ce sentiment d'appartenance, c'est une réalité. Il faut aller chercher les autres. Et on voit bien que si on a des attitudes claires, si on est clair dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, ben, je crois qu'on peut gagner au-delà de non seulement du mouvement indépendantiste, mais au-delà des seuls Kanaks.
Mais vous avez quand même demandé, enfin, en rencontrant la ministre des Outre-mer il y a quelques jours, vous lui avez demandé des améliorations à l'accord de Bougival. C'est quoi ? C'est pour eux ? Parce que vous estimez quand même que la question des transferts des compétences régaliennes est un peu trop verrouillée et que ça va être difficile de passer la barre. Et est-ce que vos partenaires qui ont signé l'accord de Bougival avec vous, les partisans de la France, seraient d'accord pour des aménagements ?
Je dis les 36 élus demandés pour le transfert des compétences. Est-ce que c'est en soi, c'est un obstacle ? Quand je vous parle des résultats qu'on a engrangés, il faut se battre. Déjà, on aura des indications par rapport aux élections municipales et provinciales. On mesurera notre rapport de force. 36 élus, c'est pas
inatteignable.
Inatteignable. Par contre, si on n'arrive pas à le faire, et c'est ça, c'est la demande qu'on formule auprès de l'État, c'est de dire de la même manière qu'aient pu s'opérer les premiers transferts, rappelez-vous, avec l'accord de Nouméa, où on avait la possibilité de déclencher les premiers transferts de compétences. Comment on n'arrivait pas à le faire ? Ben c'est l'État qui est intervenu. Pour les premières compétences, en dehors des régaliennes, c'est l'État qui a dû prendre ses responsabilités. Mais c'est aussi ce qu'on demande à l'État. Si on n'a pas les 36 élus à un moment, on ne peut pas rester, au moins sur le mandat, il va falloir déclencher. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités précisément à cet endroit. De la même façon qu'il l'ait fait de par le passé. Donc on dit c'est possible.
Mais pour l'instant, vous avez trouvé...
Donnez-nous des garanties. Donc il faut améliorer comment on procède. Une fois que c'est fait, comment on... il faut un acte juridique qui nous dise une fois que... Parce que c'est l'accord de Nouméa, c'est ça. Transfert équivaut à la pleine souveraineté. Donc... On n'a pas transféré, mais on a une majorité. L'État, on n'a pas de majorité. L'État transfère. Quel est l'acte qui nous permet de non seulement rétrocéder la compétence, et pour nous, là aussi, la compétence, ça peut se discuter. On peut dire, mais telle ou telle compétence, peut-être que le pays n'est pas en capacité de faire. Et à ce moment-là, et ça, c'est ce qu'on dit, nous, dans le cadre du partenariat, comment, mais dans le cadre d'une convention. Entendu entre le nouvel État, parce qu'il faut travailler à l'installation du nouvel État, le nouvel État et l'État français, comment on délègue cette compétence.
Mais on l'a dit depuis juillet, Bougival, c'est un consensus, c'est un compromis, c'est un équilibre. Est-ce que les loyers, c'est le rassemblement, notamment, seraient d'accord pour ces modifications que vous proposez, ou est-ce que ça suppose des discussions que proposent d'autres améliorations ? Est-ce qu'il faut encore faire bouger Bougival ?
Ben là, déjà, dans notre demande d'éclairer, au moins, parce que c'est des principes, mais il y a les modalités. En plus, à la différence de l'accord de Nouméa, où on n'avait qu'une loi organique. Là, on a une loi organique spéciale et une loi fondamentale, qui est à établir par les futurs élus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc la loi fondamentale. Les incidences de la mise en place, nous on sait, parce qu'on le traduit comme ça, c'est une constitution, nouvelle constitution. Il faut qu'on soit en capacité, et puis on a les éléments pour dire comment on configure la nouvelle constitution du pays, autour de quelles valeurs, de quelle organisation politique, etc. Mais comment on perçoit, là aussi, une constitution, comment on sort de la constitution française. Là aussi, on a besoin d'éclairage. Parce que dans le processus de l'accord de Nouméa, là aussi, c'est explicite. On a des votes, votes notamment sur les compétences régaliennes. Une fois que le résultat est oui, le Parlement s'est saisi des résultats, et là, on organise le transfert des compétences sur un temps donné, période de transition, qui, dans le même temps, permettrait à la Nouvelle-Calédonie, nouvel État, hein, de proposer sa constitution à l'approbation des Calédoniens. C'était ça le schéma de celui-là. On dira aussi c'est un statut sui generis, hein, donc ben, c'est pas, on peut pas caser dans les dispositions de l'accord ni de Nouméa ou encore parce que certains aujourd'hui disent que ben, c'est la même configuration qu'il y avait à l'époque de Gaulle, communauté française, ou ça c'est une forme de fédéralisme, ou je ne sais trop quoi. Non, c'est un statut sui generis, et qui renvoie à la responsabilité des Calédoniens, des gens du pays, et les formations politiques, ceux qui décident, hein, de voir précisément comment on configure tout ça.
Alors, maintenant que le FLNKS l'a rejeté, qui ne veut plus entendre parler de Bougival, que vous êtes sorti du FLNKS, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que ça peut, dans la mise en œuvre de l'accord de Bougival, vous pensez que les choses vont se dérouler normalement, qu'il va y avoir une loi institutionnelle, une loi constitutionnelle, qu'il va y avoir la consultation des Calédoniens? Vous pensez que Bougival va pouvoir être mise en œuvre pratiquement?
Bougival, c'est déjà le socle, entendu par, on va dire, une majorité de la représentation des partis politiques ici. Il faut aller chercher ceux qui aujourd'hui sont en retrait. C'est pas donc ben, ça suppose hein, que là aussi notre demande d'éclairer un peu plus.
Vous voulez ramener le nouveau FLNKS autour de la table?
Ben, ça serait bien que tout le monde participe à la discussion sur l'avenir. Nous on n'écarte pas cette hypothèse, mais encore faut-il faire preuve de bonne foi. Donc, et qu'on sache précisément ce qu'on veut.
Et s'ils refusent, on peut avancer sans eux ou non?
Nous, on est partant. Nous, on le dit pour nous. Moi, ça, on le dit pour nous. Je parle pour le Palika et UNI. Hein, j'oublie, parce que c'est quand même Union Nationale aujourd'hui qui nous permet de créer un rapport de force là aussi. Hein, donc, UNI, hein, donc, c'est le Palika, l'UPM, ouvert à d'autres qui ne sont pas forcément indépendantistes, mais qui croient en la capacité de ce pays à se prendre en charge, aux citoyens de ce pays. Donc là, donc, nous, on est dans cette stratégie, donc, et c'est UNI. D'ailleurs, à notre congrès, on a dit comment on peut asseoir UNI dans nos communes, comment asseoir UNI hein, dans nos provinces, parce que ça nous permettrait, nous, de sortir de ce débat clivant entre indépendantistes et non-indépendantistes. Ce qui importe, au bout du compte, et nous, ce qu'on dit, une indépendance, il faut qu'elle soit viable. Alors, peu importe. Hein, comment, mais on a un État, en plus, avec tout ce qui s'est passé. On a déjà l'assise de ce que peut être un État. On a des institutions, aujourd'hui, qui existent. On a un gouvernement. On a des provinces, on a des communes, on a...
Mais économiquement, on n'a jamais autant dépendu de l'État et de la France.
Alors ça, c'est un peu le paradoxe de l'histoire. C'est précisément bah, lié au contexte. Et moi, je trouve, mais ça, c'est ça, c'est Bougival qui l'a inscrit comme tel. Ah si, effectivement, on peut... L'accord, ça passe aussi par... Moi, je pense que les deux débats sont liés, mais dans le même temps... et ça, c'est de quoi je parle de paradoxe, c'est que jamais l'État n'est jamais... Enfin, au moins pour un indépendantiste. Mais peut-être qu'on a besoin, dans le cadre de la reconstruction, il faut que l'État ben, nous dise comment il accompagne. Parce que ça va être difficile d'imaginer la suite de l'accord politique, enfin, tout au moins l'avenir institutionnel. Ainsi, dans le même temps, on n'a pas réglé le problème des gens. Donc alors ça va se faire de front. Je considère que la reconstruction, parce qu'on a besoin, hein, donc là aussi de... Mais la réflexion, moi il me semble, sur le modèle économique, doit revenir d'abord aux Calédoniens. Moi je considère que l'État, dans ça a une forme de chantage de l'État, de dire « Ok, mais c'est nous qui pensons pour votre modèle économique. » Ça ne peut pas être ça. Sinon, on serait...
Naïma Moutchou, ce matin, sur notre antenne, a juré que ce n'était pas un chantage aux élus. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle ministre des Outre-mer? Vous l'avez rencontrée dans la province à Lifou, oui. Hier. Votre première impression, sa manière d'appréhender le sujet calédonien, ces déclarations.
Alors, moi, j'ai. Il s'est exprimé donc, par rapport aux sollicitations, hein, notamment du président de la province des îles, hein, la situation des îles, une dette. Donc, là,
catastrophique, bon, 7 milliards de.
Absolument. Donc, il a dit qu'il pourrait être les moyens, hein, pour l'État de répondre aux demandes formulées par. Notamment par l'exécutif. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est ce qu'elle a dit au moment de la coutume, hein, où elle a offert le thé. Moi, j'ai appris qu'elle est d'origine marocaine. Hein, c'est ce qu'elle a dit, une origine marocaine. Et elle a parlé donc, de la réalité d'ici. Et que parfois, hein, donc, elle a parlé des histoires des peuples qui se croisent, des peuples qui. Et qu'elle a dit, notamment à l'endroit de ces temps, hein, de mémoire. Hein, parce que la France, elle est aussi. C'est cette histoire-là, hein, donc des peuples, pour des raisons X, Y, qui sont retrouvés là. Comment on les prend en considération? Donc, il faut que ces temps mémoriaux soient partagés d'une certaine manière. Parce que ça permettrait donc, aux uns et aux autres. Hein, de retrouver ce qu'ils sont réellement, mais dans dans un pays où les mémoires ne se confrontent pas, mais se complètent. Parce que c'est ça l'histoire de notre histoire, l'histoire des peuples. Hein, c'est précisément parce qu'on a souvent on oppose pour des raisons, mais nous on est confrontés aux mêmes. Réalité que partout dans le monde, la mondialisation nous a rattrapés. On pensait que l'Europe, à l'époque, était loin. Mais aujourd'hui, on voit bien, on a un peuple ici avec différentes cultures et qui, au fil de l'histoire, on partage quasiment les mêmes choses, les mêmes réflexes, les mêmes... parce qu'on a fini par... Mais il faut continuer ce travail-là, donc de contact. Ça passe par le contact des gens. Et ça passe aussi par notre capacité à assimiler la culture de l'autre. Parce que c'est ça qui est aussi fondamental. Souvent, on a tendance, et ça, c'est aussi le mal de ce pays, c'est que trop souvent, ceux qui dirigent le pays, c'est eux aussi qui dirigent politiquement. Le pays, ça, pendant longtemps, ça a été ça. Ceux qui décident pour le compte du pays, c'est eux aussi ceux qui contrôlent les outils économiques du pays. Donc il y a un mélange de genres. Ils vont travailler d'abord.
Ils vont évoluer quand même.
Elle a évolué, mais il n'empêche que souvent.
Ne serait-ce que dans les provinces, il y a eu des changements.
Oui. Certainement que. Sauf que pour beaucoup, et notamment pour ce qui concerne les responsables politiques, enfin moi je le dis, peut-être pour moi, on n'est impliqué nullement dans ces affaires. Économique et tout ça, donc peut-être donc on arrive un petit peu à prendre du recul par rapport à ces histoires qui touchent le monde économique et surtout parce que les réformes elles sont attendues, mais il faut espérer que les réformes vont dans le sens d'une meilleure redistribution des richesses ici, mais pas qu'on fasse des réformes pour préserver les intérêts de quelques groupes là, parce que c'est encore ça la réalité, hein, donc du pays.
Charles Wachetine, j'aurais eu encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps passe malheureusement. Vous reviendrez, j'espère.
Ça, ce sont mes camarades qui décideront. Merci.
Merci en tout cas d'avoir accepté votre invitation dans ce magazine Transparence.